Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre Grand Angle hebdo, le sommaire. Un possible tournant dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le ministre israélien de la Défense a donné son feu vert à la prise de Gaza ville. L'armée rappelle 60 000 réservistes. Décryptage dans votre émission avec Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée, Moyen-Orient. Retour sur la proposition d'Emmanuel Macron de mettre en place une force de stabilisation à Gaza avec un mandat de l'ONU. Nous y reviendrons avec Ronny Broman, directeur d'études à la Fondation MSF, ancien président de Médecins Sans Frontières. Les disparus en Syrie. Le président de la commission syrienne sur les personnes disparues affirme qu'au moins 300 000 Syriens pourraient avoir disparu depuis l'arrivée au pouvoir de la famille Assad en 1970 et tout au long de la guerre civile. Nous écouterons la journaliste franco-syrienne à Libération, Ala Kodmani. Une rencontre Poutine-Zelensky verra-t-elle le jour? C'est en tout cas ce qui a été convenu lors d'un sommet historique lundi dernier à Washington. Nous écouterons le scepticisme du député Frédéric Petit, membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée et fin connaisseur de l'Ukraine. C'est un fait majeur dans la guerre entre Israël et le Hamas. Israël a approuvé le plan pour prendre Gazaville et a rappelé 60 000 réservistes. Le cabinet de sécurité présidé par Benjamin Netanyahou avait approuvé au début du mois un plan pour s'emparer de cette ville et de camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza. Le décryptage de Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et Moyen-Orient, co-auteur du livre « Atlas du Moyen-Orient » aux éditions Autrement. Il nous fait part de l'implication de cette décision dans cette guerre.
Je crois qu'il faut la remettre dans un contexte global, c'est-à-dire l'idée qui peut nous paraître aberrante, mais qui malheureusement peut se matérialiser, c'est que ce gouvernement veut liquider la question palestinienne. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, et qu'à partir du moment où il a le soutien indéfectible des États-Unis, c'est-à-dire à partir de novembre 2024, au moment de l'élection et bien entendu la prise de fonction de Donald Trump en janvier de cette année 2025, eh bien il estime avoir les moyens diplomatiques et politiques de le faire. Et donc liquider, ça veut dire quoi? Ça veut dire écraser la Cisjordanie par tous les moyens possibles pour pouvoir évidemment coloniser et recoloniser, pourquoi pas avec comme perspective un peu messianique, même totalement messianique, l'annexion de la Cisjordanie. Et pour ce qui est de Gaza, ce qui se trame en ce moment, c'est très clair, sont des transferts de population du nord vers le sud, et ensuite faire en sorte que la plupart des gens qui s'y trouveront, dans des conditions épouvantables, devront partir, devront s'exiler. Ce sont des transferts forcés qui sont en train d'être organisés. Donc dans ce cadre-là, la décision de Katz d'approuver les plans militaires, qui eux-mêmes ont été préparés par le cabinet de guerre il y a quelques jours, comme vous le rappeliez, eh bien, ça veut dire on met en action, malgré les oppositions quasi unanimes dans le monde et des Nations Unies, à l'exception évidemment des États-Unis, eh bien, on va transférer de force des centaines de milliers de gens dans des conditions, que je répète, épouvantables, dans les semaines, dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est ça que ça veut dire. Et
justement, en droit international, comment cela est qualifié?
Ce sont des crimes de guerre, à l'évidence, et pourquoi pas des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire une attaque délibérée et systématique contre une population. C'est ça la définition d'un crime de guerre selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc c'est ça dont il s'agit. Et une fois de plus, il y aura des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ce qui est déjà le cas depuis des mois et des mois. Je rappelle que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Yvon Galland, l'ancien ministre de la Défense, et contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et Moyen-Orient. Retour à présent sur la proposition d'Emmanuel Macron de mettre en place une force de stabilisation à Gaza avec un mandat des Nations Unies. Nous y revenons avec Ronny Broman, directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, ancien président de MSF. Ronny Broman.
L'expérience de ces déploiements de casque bleu est loin d'être entièrement négative, mais elle est considérée avec une certaine prudence. C'est-à-dire dans les endroits où une paix, même fragile, a été signée, où les belligérants s'accordent sur le fait qu'il faut dépasser la situation de conflit armé pour s'acheminer vers un traitement politique du conflit, des accords. Là, les casques bleus, en tant qu'observateurs, en tant que garants d'un cessez-le-feu, peuvent jouer un rôle de stabilisation, en effet. Mais on ne stabilise que quelque chose qui a déjà atteint une certaine stabilité. Là, on est en plein déséquilibre. Il n'y a rien d'une situation stable. Il y a une immense fatigue de la guerre. Ça, c'est sûr, c'est peut-être le principal élément de stabilisation. Une immense fatigue, évidemment, comment serait-il autrement, du côté palestinien. Mais immense fatigue également du côté israélien, fatigue économique, mais fatigue physique aussi de la guerre. De plus en plus de réservistes refusent leur nouvelle convocation. Enfin, l'armée israélienne est en état moyen, ses équipements sont délabrés, enfin en tout cas très endommagés par l'usage intensif qui en a été fait. Bref, voilà ce que j'entends par fatigue. C'est, à mon avis, aujourd'hui, le seul élément qui concourt à la stabilisation, mais c'est bien peu, pour parler d'une situation qui pourrait être confortée par un déploiement de casques bleus. Cela étant, peut-être ma vision est-elle un peu trop pessimiste, mais mon expérience des situations de maintien de la paix ou d'imposition de la paix m'amène à penser cette situation de cette façon-là.
René Broman, ancien président de Médecins sans frontières, au micro de Loïc Barrière. Les disparus en Syrie. Le président de la commission syrienne sur les personnes disparues affirme qu'au moins 300 000 Syriens pourraient avoir disparu depuis l'arrivée au pouvoir de la famille Assad en 1970 et tout au long de la guerre civile. Ce nombre pourrait être encore plus élevé, comme le souligne le président de cette commission. Et c'est aussi le point de vue de la journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération, Alaa Qodmani.
C'est évident que déjà sous le père Assad, jusqu'en 2000, il y avait des dizaines de milliers de prisonniers, dont certains, on ne sait pas le sort. Mais depuis 2011, les arrestations massives, les tortures massives dans les prisons, les tueries qui avaient lieu ici ou là et qui souvent n'étaient pas nécessairement documentées et sans témoins, je pense que malheureusement, plus ça va et plus on découvrira, d'ailleurs on est en train de découvrir de plus en plus des fosses communes et essentiellement ce sont des exactions et de la répression commises par les forces de l'État, du gouvernement, du régime. Bien sûr, on inclut dedans les victimes de Daesh, les victimes d'autres factions, mais en ce qui concerne les disparitions précisément, je crois que c'est essentiellement le fait du régime Assad.
Alaa Qodmani, journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération, elle répondait à Nadia Bencher. L'avenir de l'Ukraine est discuté lundi soir dernier à Washington. Une réunion entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Une rencontre moins de trois jours après le sommet entre le président américain et Vladimir Poutine en Alaska. L'idée d'une rencontre entre les présidents russes et ukrainien a été acté, une première depuis le début du conflit. Mais pour le moment, rien n'est fait. Le scepticisme du député des Français de l'étranger, fin connaisseur du dossier ukrainien, Frédéric Petit.
Ça serait une victoire chorégraphique de Zelensky, puisque Poutine ne le reconnaît pas. Donc moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, parce que la presse russe ce matin dit, le communiqué officiel du Kremlin et la presse russe disent Oui, nous sommes d'accord sur une nouvelle réunion au sommet entre l'Ukraine et les Russies, mais le premier point, c'est de savoir comment on fait les délégations. Donc, eux ne parlent pas de Poutine-Zelensky. Si Poutine accepte de se trouver officiellement d'égal à égal en face de Zelensky, il recule. Puisqu'il a toujours dit que c'était pas le... Zelensky non seulement est un nazi, machin, etc., mais en plus n'est pas le représentant légitime de la région de l'Ukraine. Voilà. Donc ça serait assez fort, mais moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura des échappatoires, ou alors que ça se fera pas la semaine prochaine, quoi.
Comment vous avez perçu cette rencontre ce lundi soir, ce face-à-face entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, très différent bien entendu du précédent, notamment dans le ton employé par Donald Trump?
C'était un très grand progrès, on va dire, comme ça pour être gentil, du côté de Donald Trump. D'abord, c'était pas un face-à-face. Il y avait quand même toute la coalition des volontaires autour avec Zelensky, et c'était vraiment, je sais pas si vous avez vu les photos, mais c'était des tables complètes, quoi. Hein, et de l'autre côté aussi. Voilà, il y a une chose aussi sur la composition des tables et des rencontres.
Je pensais à la conférence de presse avec Donald Trump.
Voilà, oui, bah c'est un juste retour des choses, un juste retour de balancier par chorégraphique. Là, c'est clair que il y avait Zelensky, il y avait Donald Trump, et ils étaient en plein accord, et c'était une image forte, ça, la conférence de presse. Commune. Bien sûr, ça c'était clair.
Le député des Français de l'étranger, Frédéric Petit, fin de votre grand angle hebdo. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.